Léon de Wesley, quelques superstitions de Noël. Les mégalithes tournant. C'est aujourd'hui la veillée de Noël. De tous les clochers de la ville s'échappent de joyeux carillons, et de ma fenêtre j'aperçois les vitraux de Saint-Ouen s'éclairer. Les mailles des plombs s'ertissent de noir, les auréoles des saints et les robes des lévites. Les feux du gaz font flamber la rosace que traça le compas de Berneval, tandis que d'une haute cheminée s'échappe la fumée du calorifère, étendant sa lèpre noirâtre sur les moines, les évêques et tout ce peuple de statues fixé au sommet des pinacles par le génie de nos pères. Adieu, saint prélat, dont le givre recouvrait les dalmatiques et festonnait les ornements des mitres. La suie recouvre maintenant vos manteaux, et vous, gargouilles à la gueule béante, désormais vous ne lancerez plus que les résidus de la houille. Remisez au vieux clocher la lueur pâle et tremblante des cierges. Déposez dans les musées les chauffe-mains de nos aïeuls, chefs-d'œuvre de nos faïenciers rouennais. Le gaz, l'électricité, le calorifère vous ont remplacé, et les poètes seuls pourront encore évoquer vos images troublantes. Et pendant que je laissais ainsi errer ma pensée, la foule des fidèles se rendait à la vieille abbatiale pour redire le Gloria, ce chant d'allégresse qu'entonnèrent les anges il y a près de 2000 ans au ciel de Bethléem, car seule la liturgie conserve les vieilles traditions, quoiqu'elles se modifient chaque jour au contact de la musique profane. Et cependant, comme ils étaient beaux en leur simple et lente mélopée, ces chants religieux, ces Noëls naïfs qui bercèrent et réjouirent nos aïeux. Un poète, Maurice Bouchard, et de patients érudits, messieurs Christophe Allard et Nourri, s'efforcent de les recueillir pour nous faire goûter le charme de leur poésie et la saveur de leur rusticité. Et ces vieilles légendes contées sous la vaste cheminée, pendant que la bûche de Noël crépitait dans l'âtre, elles ne sont pas complètement oubliées. Hâtons-nous donc de les recueillir pendant qu'il en est temps encore. Le narrateur est devenu vieux, il a bien la tête branlante et le récit un peu languissant, mais les superstitions, quoique altérées, sont encore conservées par les populations des villages, ignorantes des inventions de la science moderne. Noël est non seulement pour le peuple la nuit où naquit l'enfant Dieu, c'est aussi celle où parut dans les cieux l'étoile miraculeuse, l'astre des images chaldéens. Est-ce un lointain souvenir de l'enseignement des druides, ces prêtres astrologues qui célébraient le solstice d'hiver? Est-ce un souvenir plus lointain encore? Je ne saurais préciser, mais ce que je sais, c'est que j'ai retrouvé dans plusieurs légendes la trace de pratiques astrologiques. Et cependant, le peuple ignore les pyramides à étages et les tablettes d'argile chargées de caractères cunéiformes. Mais comme il est logique, il reconnaît dans les images les pères de l'astrologie. Avec son bon sens, il les revoit, les yeux fixés tour à tour sur des lignes cabalistiques et sur la voûte du firmament, où les premiers, ils découvrent l'astre qui doit guider roi et berger vers l'étable où est né Jésus. Aussi, dans cette nuit de Noël, tout prend un air de mystère, voire même de sorcellerie. Les roches qui bordent notre beau fleuve, les monuments mégalithiques qui se dressent encore au milieu des champs, voient leurs grosses pierres tourner plusieurs fois sur elles-mêmes pendant la généalogie de la messe de minuit. À Gerponville, canton de Valmont, un mégalithe situé au Cros-Blanc, hameau de Vauville, s'agite au fond de la fosse où il repose depuis des siècles et tourne trois fois sur lui-même. Que si l'énorme pierre exécute ce mouvement, c'est sans endommager son beau manteau de lichen et de mousse et sans fouler les ronces qui l'enveloppent. C'est du moins ce que j'ai constaté. Même à Gerponville, on croit au surnaturel et une pierre du bois voisin, celui du Pivalet, préserve de la foudre. Une autre pierre tournante est celle connue sous le nom de Mademoiselle de Malmain. Elle est située au Bosquet, commune du canton de Routot, dans l'Eure, sur le bord d'un bois voisin de celui du Perret et de la forêt de la Londe. Dans cet endroit s'élève un tertre de peu de hauteur, légèrement incurvé en son milieu et qu'abrite des sapins. Au fond de la cavité, une grosse pierre de 2 mètres de longueur sur 70 cm de large est couchée à terre. C'est là le mégalithe valseur qui tourne sur lui-même pendant la nuit de Noël. Mademoiselle Amélie Bosquet, qui rapporte aussi cette légende, ajoute que les habitants du pays prétendent qu'un ancien propriétaire, ayant enlevé la pierre de l'emplacement qu'elle occupe, à l'aide de 300 chevaux, elle y revint elle-même de son premier mouvement la nuit suivante. À une lieue à peine au-dessous de Côtebec, sur le territoire de Villequier et non loin du château de la Martinière, on voit une roche que le peuple désigne sous le nom du Pain Béni. Cette roche ne se distingue des roches voisines que par sa forme conique un peu aplatie au sommet. Mais combien elle est vénérée dans toute la contrée! Ses flancs recèlent des trésors que gardent des monstres et des dames blanches. Et chaque année, cette roche tourne 7 fois sur elle-même pendant la généalogie de la messe de minuit. Le Pain Béni. Le nom de Pain Béni donné au rocher du Villequier me remet en mémoire certaines superstitions auxquelles s'attache le symbole de la fraternité chrétienne. Le jour de Noël, le Pain Béni est généralement offert par les garçons des villages normands et la part donnée à chaque paroissien surpasse en volume la petite bouchée des distributions dominicales. Aussi, après s'être signé dévotement avec le gâteau béni, les bonnes femmes le gardent-elles précieusement dans leur chaumière pour l'employer à des pratiques superstitieuses. Dans les environs de Gournay, ainsi que dans plusieurs communes riveraines de l'Epte, il est déposé dans l'armoire, sur les piles de linge, orgueil des ménagères normandes, et là, à l'abri des causes de détérioration, il révèle l'état de santé des absents. Car s'il vient à se couvrir de moisissures, le fils militaire, la fille placée en service, sont menacés de maladie et peut-être de mort. Dans quelques contrées, c'est le gâteau des rois qui remplace le pain béni de Noël. Après que le morceau appelé « Paradieu » a été tiré par le plus jeune enfant, auquel l'usage attribue les fonctions de distributeur, le morceau de l'absent est aussitôt désigné et placé dans l'armoire. Les braves gens qui ne connaissent ni les bacilles ni les végétations des levains tremblent en voyant les microscopiques cryptogrammes tracer leur petit cercle verdâtre sur la part de gâteau du cher absent. Un autre emploi du pain béni de Noël est dans l'usage suivi par les habitants de la presqu'île de Tourville, canton d'Elbeuf, pour retrouver le corps d'un noyé. Les parents et les amis, chargés de faire des recherches, se rendent à l'endroit où l'accident ou le suicide a eu lieu. Ils placent alors sur le fleuve 3 jattes en bois dans lesquelles on a mis au préalable une bouchée de pain béni et un petit cierge. Les légers esquifs ainsi lestés s'en vont au courant de l'eau, voguant au gré du flux et du reflux, s'arrêtant aux branches des saules ou aux obstacles semés sur les rives. Après 2 marées consécutives, on s'enquiert de la position des écuelles, et c'est dans le triangle dont elles fixent les sommets que le corps doit être retrouvé. Les habitants de la presqu'île géométrique suivent une pratique à peu près semblable. Lorsqu'un individu se noie, on fait bénir un cierge que l'on fixe sur une planche ou sur un morceau de liège. Après cette préparation, on allume le cierge, on le lance au gré du courant, et il doit immanquablement s'arrêter à l'endroit où le corps a disparu sous les flots. Ces dernières superstitions, sans avoir une base absolument scientifique, repose au moins sur l'observation des régimes de la Seine faites par les populations du littoral. On sait que les hydrauliciens, pour fixer la vitesse d'un cours d'eau et parvenir à le jauger, relient ensemble de petites boules de densité différente qui pour cette raison plonge à des profondeurs variables dans la masse liquide. Les flotteurs des riverains de la Seine sont d'une technique moins savante que celle enseignée par M. de Prony et de Saint-Venant, mais qui tend vers le même but, établir la position d'un corps flottant au gré d'un courant. Pourquoi, dira-t-on, le morceau de pain, le cierge béni ? D'abord pour assurer la stabilité du flotteur, ensuite pour donner du surnaturel à une expérience trop simple sur elle-même. Et le nombre 3 fixé pour les écuelles ? C'est un nombre impair et favori des dieux. Deus impare gaudet. L'impair se réjouit le dieu. Il se trouve à la base de toutes les pratiques kabbalistiques, vestiges du paganisme. Et il suffira pour perpétuer encore longtemps la naïve superstition des riverains de notre beau fleuve. Le souterrain de la Reine Blanche. L'imagination populaire s'est toujours complue à rêver le mystérieux au milieu des ruines des anciens châteaux forts. Les trésors gardés par les monstres, les ourdes, les tours démantelées où demeurent et habitent les dames blanches, les souterrains impénétrables que la folle du logis peut seule parcourir sont ordinairement le thème favori de toutes les légendes. La forêt de Gisors, forteresse de Gisors, n'a rien à envier aux antiques tours et aux vieux donjons qui bastionnent les rives de la Seine, du Rhin ou de la Cascogne. La tradition veut en effet qu'un souterrain, dénommé de la Reine Blanche, aujourd'hui bouché, est servi à relier les donjons de Nauphle et de Gisors. Ce souterrain mystérieux, dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais parcouru, recèle en un endroit défendu par des grilles formidables un trésor immense. Il n'y a qu'un jour, qu'une heure, qu'un moment dans l'année où il soit possible de pénétrer dans cette obscure demeure, mais à des conditions qui font frémir la cupidité la plus insatiable. Le jour de Noël, à l'instant où le célébrant lit la généalogie de la messe de minuit, les obstacles qui s'opposent aux efforts de ceux qui auraient voulu s'enfoncer dans la mystérieuse caverne se dissipent tout à coup. Les flammes diaboliques s'éteignent, le gardien du magnifique trésor s'endort, et toutes les richesses sur lesquelles il veille peuvent devenir la proie de l'audacieux qui aura osé s'aventurer dans le labyrinthe infernal. Même malheur à l'explorateur qui aura perdu son temps en tâtonnements inutiles. La généalogie achevée, le démon se réveille, et celui qui se trouve alors dans le souterrain de la Reine Blanche ne reverra jamais la lumière du jour. Rouen, 24 décembre 1894.